direct de Montréal, voici le cabaret des acolytes.
Le spectacle va bientôt commencer!
On ne peut pas faire de magie, on ne peut pas les inventer, ces personnes-là.
Ça alors, pour une surprise, c'est tout une surprise. Oh, bonjour les tout-petits!
Accueillez votre animateur pour le cabaret des acolytes, Jean-François Gélinas.
Je vous souhaite la bienvenue à ce tout nouveau cabaret des acolytes. Le rideau s'ouvre sur la grande scène. On prit place autour de cette table, les fameux acolytes. Bonsoir la gang!
Bonsoir!
Bonsoir!
Avez-vous profité du grand air ces derniers jours?
Ah, beaucoup!
Absolument!
Oui? Oui. Oui. Moi, je me suis beaucoup promené en forêt avec mes raquettes dans les derniers jours. Beaucoup, pour m'inspirer du thème de cette semaine. Et pour ceux qui sont nouveaux avec nous, les acolytes, j'ai un bref rappel de ce qu'est le cabaret. À chaque semaine, on vous fait un cabaret autour d'un thème, un thème choisi par nos acolytes. Ce soir, c'est Christine qui a choisi le thème. Mais oh, je vais vous présenter, oui, mais je vais vous présenter la gang. Christine Gélina avec nous, Geneviève Proux, Janelle Touchette et Juan Blasco. Bonjour.
Bonsoir tout le monde.
Christine, deux mots sur le pourquoi de ce thème ce soir. Qu'est-ce qui t'en a inspiré?
Vraiment, moi... Est-ce que je peux le dire, le thème? Est-ce que je peux en parler ou tu veux le présenter puis je fais juste dire qu'est-ce qui m'a inspiré?
Ben, je sais pas. Tu veux le dire? Dis-le.
Alors, quand j'entre en forêt, j'ai un ressourcement complet. J'adore toute activité en forêt, autant que ce soit l'hiver, l'été. Aussitôt que j'entre dans cet environnement-là, on dirait que je me sens sécure, c'est à ma place et j'y suis. Donc, je vous propose le thème de la forêt ce soir.
Ben, je reviens vers vous, les acolytes, dans quelques secondes, le temps de présenter aux auditeurs ce thème que Christine a volé le punch, mais je vais vous le présenter. Alors, quel vaste thème ce soir aux acolytes, si vaste que ce thème au cabaret occupe plus de 54% de tout le territoire québécois. Qu'elle soit boréale, amazonienne, méditerranéenne ou tropicale, on dit d'elle qu'elle est le poumon de la Terre. Pour la plupart d'entre nous, la forêt est un espace de loisirs et de ressourcement. On s'y promène à pied, en ski, en raquette, on s'y cache, on observe les oiseaux, les animaux, on écoute les bruits, son silence, sa musique, la sainte paix. Mais si se promener en son sein, au milieu du bois, rime avec une reconnexion avec la nature, elle est aussi un sujet de discorde. On la coupe à blanc. On la brûle, on la déforeste, si bien que le caribou et les elfes n'y retrouvent plus leur maison. Les besoins commerciaux éludent trop souvent la perte de ce milieu naturel où vivent une multitude d'espèces animales et végétales. La forêt est un état d'âme, disait Gaston Bachelard, le philosophe français du dernier siècle. Un état d'âme, l'âme de ce cabaret ce soir. Alors, vous l'aurez deviné, ce soir, les acolytes vous font tout un cabaret autour de la forêt. Je me tourne vers vous, les acolytes. Christine, tu vas nous accompagner en musique pendant tout ce cabaret. Et qu'est-ce que la forêt t'a inspiré musicalement?
En fait, Jean-François, j'ai choisi des chansons qui, j'espère, vous ressourceront autant que moi. Et plonger aussi dans un univers profond et engagé.
Merci beaucoup, Christine. Janelle, toi qui aimes les faits divers, tu t'es intéressée aux légendes et aux phénomènes paranormaux dans les forêts.
Oh. Oui, oui. J'avoue que ma curiosité a été piquée là, quand j'ai commencé à faire mes recherches. Vous savez, moi, j'aime pas trop les histoires d'épouvante, mais vraiment, c'était super fascinant ce que j'ai trouvé. J'ai eu de la misère à vous choisir quelque chose pour vous titiller, les auditeurs, oui.
Ah, j'ai hâte.
Merci beaucoup, moi Janelle. Aussi. Geneviève, c'est toi qui vas débuter le cabaret. Qu'est-ce que tu nous prépares ce soir?
Bien, moi, je vais vous parler des forêts qui m'impressionnent certainement. Et je ne pouvais pas vous parler de toutes celles qui m'impressionnent, bien sûr, dans cette courte chronique. Et ça va être principalement basé sur la forêt noire.
Oh, merci beaucoup, Geneviève. Toi, Juan, pour ta part, tu as décidé de te pencher sur la forêt boréale et ce que c'est, son rôle dans l'écosystème.
Mais quel sujet, Jean-François? Quand on commence à lire sur la forêt boréale, on s'arrête juste pas. C'est un monstre terrestre tranquille et très précieux et qui joue un rôle essentiel pour la subsistance de l'homme. En bref, c'est passionnant, je vous raconte ça dans pas long.
Merci beaucoup, Juan. Moi, cette semaine, je vais vous parler de la forêt boréale, mais sous un autre angle, sous l'angle de son garde-manger, car j'ai lu pour vous le livre « Le garde-manger boréal » de Jean-Luc Boulay et de Arnaud Marchand. Vous le savez, notre rapport avec la forêt a beaucoup changé et ce livre est une invitation non seulement à cuisiner des aliments locaux, mais aussi une invitation carrément à aller se promener et aller redécouvrir notre forêt autrement. Alors, je vous en parle plus tard dans l'émission. Alors, ça démarre « Les acolytes ». Le cabaret est ouvert sous le thème de la forêt.
Dans la forêt des mal-aimés, chaque arbre est un membre oublié, chaque feuille, une âme délaissée. Dans la forêt des mal-aimés, comme il fait bon s'y promener. Pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu où les murs tapissés de fleurs ne font que rappeler le malheur? Mais pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu?
On l'aime tant, on l'aime tant. On est tellement allé le voir en concert souvent.
C'est vrai, hein?
Ouais.
On écoutait en fait Pierre Lapointe avec la chanson « La forêt des mal-aimés », parue en 2006, hein? Ça fait quand même un petit bout avec l'album du même nom. Oui, hein?
Presque
ça fait
20
longtemps.
Ans. Hey.
Et Pierre Lapointe qui nous fait vibrer depuis 2004 avec son premier album, avec un premier succès, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Columbarium.
Ben oui.
Oui. Depuis, il accumule les succès.
Ben oui, merci beaucoup Christine. On revient plus tard à toi dans l'émission avec d'autres musiques et chansons. Vous nous écoutez et vous nous aimez, le meilleur moyen pour nous soutenir, c'est de nous envoyer un chèque à l'adresse suivante. Non, c'est pas vrai. C'est d'aller aimer notre page Facebook. facebook.com/lecabaretdesacolytes. Ce balado est rendu possible notamment grâce à Balado Québec, on les remercie. Le Cabaret des Acolytes est disponible chez eux, mais aussi sur Spotify, Apple, Google et la plupart des plateformes de podcast. Alors, on poursuit ce cabaret sous le thème de la forêt. On le débute, ce cabaret, avec Geneviève. Alors, comme je l'ai dit en introduction, c'est un vaste thème, la forêt. Et pour bien l'aborder, ben, tu nous fais le tour des horizons qui t'ont marqué.
Effectivement. Alors, puis dans le fond, moi, ça m'appelle énormément ce thème-là. Il y a des gens qui jurent par la plage, la mer, les airs, mais personnellement, moi, ce qui me transcende le plus, c'est la flore. Hein?
Ah, oui.
Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Ah, c'est formidable. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que justement de marcher en forêt enveloppée par des arbres gigantesques à perte de vue?
Mm-hmm.
Sérieusement. Un mos été comme hiver, comme on dit. Fait que je suis d'accord avec toi, Christine. Merci d'ailleurs pour ce beau thème-là. Parlant d'arbres gigantesques, je commence ma tournée avec, comme j'ai précédemment dit, la forêt noire. Je me suis questionnée sur la provenance de son nom. Pourquoi elle s'appelle comme ça?
Ça doit être une forêt sombre, une forêt, ouais.
Très dense.
Peut-être. Très dense, ouais.
Mais vous êtes pas mal bon, ça ressemble vraiment à ça. Effectivement, son origine, ça remonte à l'époque romaine, alors que dans ce temps-là, la densité des conifères, dans le fond, tapissait la forêt, ce qui empêchait les rayons de soleil de transpercer la forêt noire d'Allemagne. Voilà.
Ah
donc,
oui.
C'est exactement ça.
Et on en a fait plus tard des gâteaux.
Mmh. Oui, ben, je vais vous en parler d'ailleurs. Effectivement, on est connectés, Jean-François. Donc, elle comprend non seulement cette forêt-là des pins en abondance, un massif montagneux, également des stations thermales naturelles et elle est reconnue aussi pour ses villages pittoresques.
Ben oui.
Donc, c'est vraiment une visite en attendant virtuelle pourrait certainement vous satisfaire en attendant qu'on puisse vraiment être là, mais c'est quand même, c'est ravissant. Ça permet de voyager à peu de frais et en toute sécurité. Donc, on se croirait littéralement dans un film de Walt Disney. Petit clin d'œil à l'acolyte Janelle qui adore Disney. Alors, voilà.
Est-ce que le château de Walt Disney est dans la forêt noire?
Non.
Non? C'est en Suisse? C'est où ça?
Non, mais moi... Non, mais il y a peut-être un petit lien tantôt. Moi aussi, je vais peut-être faire un petit crochet vers la forêt noire dans les légendes et les... Donc oui, on n'est pas loin.
OK, OK.
Je suis excitée.
La suite plus tard.
C'est excellent. Donc, justement, Jean-François, tu as mentionné le gâteau forêt noire. Fait que moi aussi, je me suis questionnée, bon, attends une minute, c'est quoi vraiment le lien exactement, tout ça? Okay? Il vient pas littéralement de la forêt noire, le forêt noir, c'est plutôt comme, il est arrivé beaucoup plus tard, comme dans les années 1900, qu'on a entendu parler la première fois de ce gâteau-là. Et en fait, il rappelle les costumes traditionnels des jeunes filles de la forêt noire. Donc, une jupe très foncée, un chemisier blanc avec des pompons rouges.
Ah, ben, alors, t'es lente, ouais.
Ah, d'où les cerises, puis...
Ouais.
J'aurais pas pensé qu'un habillement aurait inspiré un gâteau.
C'est exceptionnel, hein? Je sais pas si les jeunes filles buvaient beaucoup de kirsch, mais en tout cas, il y en a dans le forêt noire classique.
Là, je suis certain que la prochaine fois qu'on va manger un gâteau forêt noire, on va voir la robe. Je suis convaincu.
Ça se peut bien, ça se peut bien. Tant qu'on la mange pas, la robe, elle, c'est peut-être moins bon.
Ça dépend si ça met le kirsch dans le gâteau ou pas.
Exactement. Donc, en revanche, OK, le jambon forêt noire, lui, il provient vraiment à l'époque, c'est vraiment ancestral de la forêt. C'est un jambon qui prend plusieurs mois à préparer. Il est macéré dans des herbes qu'on retrouve dans la forêt noire, des trucs comme ça. Et il est frotté à l'ail, bon, toutes sortes de trucs. Et il est fumé surtout pendant plusieurs semaines avec des bois de pin et d'épicéa, bien sûr, de la forêt. Donc, bon, on va cesser de parler de nourriture. On sait que je ne peux pas m'arrêter là-dessus.
Ben oui, surtout qu'il ne te reste pas beaucoup de temps, Geneviève, pour nous parler des autres forêts qui t'intéressent.
Okay,
tu nous as juste parlé de la forêt noire.
On va faire ça rapidement. Je vous dirige maintenant vers la Belgique avec la magnifique forêt Bois de Halle à l'Herbos. Donc, à visiter préférablement en avril, à un moment donné qu'on va pouvoir y aller, afin d'être saisi par la beauté de son sol violet bleuté, car il est tapissé de jacinthes sauvages.
J'ai vu des photos cette semaine de cette forêt-là, et c'est magnifique. Magnifique.
Vraiment, ouais. Vraiment. Là, je vous dirige vers le pays natal de Juanito, un de nos acolytes, et plus précisément, dans le pays de Basque, dans la forêt de Otzareta. C'est dans un parc naturel. Magnifique, on y retrouve des grottes, des cascades d'eau, ainsi que de la mousse verte qui prend naissance au bas de ces arbres, c'est des hêtres centenaires. Mmh. Puis quand on regarde ça rapidement, ça donne un effet rouge et vert selon à quelle saison on visite ça. C'est vraiment très, très beau, très saisissant. Et je termine avec une petite question pour vous, les acolytes.
Vas-y. Mmh.
Savez-vous où poussent des arbres au tronc carré?
Au tronc carré?
Au tronc carré.
C'est chez les Anglais? Planche, hein?
Je ne ferai aucun commentaire à cet effet.
On a des images.
En fait, c'est dans une forêt tropicale au Panama, à El Valle, qui pousse des arbres au tronc carré. Cette curieuse végétation-là proviendrait tout simplement du climat et du sol volcanique. On en retrouve aussi au Costa Rica. Alors, je vous souhaite une bonne promenade virtuelle et sinon, dans les forêts de chez nous, évidemment, physiquement, les acolytes.
Ah, c'était super intéressant, Geneviève. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Et quand la nuit s'enfonce aux profondeurs des lacs, quand l'orignal s'amonce aux écureuils acrobates, quand les lucioles endormies font jaser les wawa, je suis le calme de tes nuits, la réponse à tes questions. Je suis l'effet, la cause et la solution.
En plus de sa poésie, quelle voix, hein?
Ah oui, on écoutait, vous le connaissez, Tire le coyote, avec la chanson « Pour que tu t'en sauvages ». Tiré de l'album, je vais vous en parler plus tard. Alors, retenez le nom, « Nos forêts chantées ». Alors, comme je vous disais plus tôt en introduction, la forêt, pour moi, c'est une source de ressourcement. Il y a beaucoup de choses à faire en forêt. Puis, j'ai envie de vous poser la question suivante, les acolytes. Qu'est-ce que vous faites en forêt, vous? Qu'est-ce qui vous allume?
Moi, je marche et je regarde justement toute la végétation. Donc, puis été comme hiver, c'est sûr qu'hiver, on est plus des conifères et tout ça, mais moi, c'est ce que j'aime le plus.
Randonnée, raquette, ski de fond, marche.
Moi, j'adore la raquette. C'est un, mon sport préféré, je pense.
Oui.
Ouais. C'est admirer le ciel quand t'es en forêt, puis de voir à travers les arbres, le soleil, puis tout là, ça, c'est vraiment ressourçant.
C'est vrai. Moi, je vous suis dans la randonnée. J'aime bien aussi marcher en forêt. Je trouve ça tellement apaisant.
Il y a beaucoup de choses hein, qu'on peut faire en forêt. En fait, de l'observation d'oiseaux, de la cueillette de champignons. Geneviève, tu en as parlé tout à l'heure. Toutes les activités sportives. Hein, on peut faire de on peut aller vers une piste d'hébertisme, faire de la tyrolienne. Je ne sais pas si vous avez tous passé vers un pont suspendu là, qui passe au-dessus d'un grand ou un canyon ou un ruisseau. C'est tellement merveilleux. De la survie en forêt aussi. Un petit bonjour à mes années de scoutisme, Jean-François aussi, peut-être
ben oui.
quelques années. Faire de la survie ou des camps d'hiver aussi, le silence de l'hiver, toute la composition artistique aussi, les gens qui vont en forêt pour créer poèmes, peintures, chansons. Alors,
ça m'a fait penser, Christine, l'année dernière, j'ai fait Via Ferrata au Mont-Tremblant.
Oui.
Et c'est vraiment une très belle expérience. Tu vois la forêt autrement. Et c'est de l'escalade, là, un peu un mélange, là, Via Ferrata. Donc, c'est une activité intéressante à faire en forêt.
Oui, toutes sortes de choses. Puis, je suis sûre que vous avez déjà aussi... Bon, faut pas le proposer, là, mais vous avez pris un petit canif pour faire un petit cœur dans un grand chêne. Là. On écoute la prochaine chanson.
Faut pas faire ça. On écoute la prochaine chanson.
À l'orée des forêts, le chêne ténébreux allie connaissance avec deux amoureux. Grand chêne, laisse-nous sur toi graver nos noms. Le grand chêne n'a pas dit non. Quand ils eurent épuisé leur grand sac de baisers, quand de temps s'embrasser leurs becs furent usés, ils ouïrent alors en retenant...
C'était le grand Georges. Alors, on poursuit ce cabaret des acolytes sous le thème de la forêt et je me tourne cette fois-ci vers Juan. Pour comprendre la forêt du Québec, il faut comprendre ce qui l'a fait pousser, l'a fait régénérer. Tu vas nous dépeindre cette immense forêt, ce poumon naturel qu'est la forêt boréale. On t'écoute.
Tout d'abord, la forêt boréale, qu'est-ce que c'est? C'est 1,9 milliard d'hectares. Donc, en point de comparaison... La forêt amazonienne, c'est 0,55 milliards d'hectares. Donc, c'est presque 4 fois plus grand que la forêt amazonienne, quand même. Mm-hmm. C'est aussi 14% de la surface de la planète. Ça représente un tiers des zones boisées de la Terre. Fait que vous prenez toutes les forêts de la Terre, vous divisez ça en 3, c'est la forêt boréale.
Ah oui. Donc, c'est pas seulement au Québec, là. C'est
Non, pas du tout.
Ceinture
en fait,
le globe, quoi.
En fait, c'est presque un anneau sur l'hémisphère nord. C'est Canada, Russie, Chine, Finlande, Norvège, pour ne citer que ces pays-là. Donc, ça fait vraiment un anneau. En plus d'être le plus vaste écosystème du monde, elle représente 80% de l'eau douce de la planète. 80% de la planète bleue, c'est quand même beaucoup. Là.
80% de l'eau douce de la planète se situe dans la forêt boréale, c'est ça?
En fait, j'y viens, c'est que la forêt boréale joue un rôle essentiel par rapport à cette eau-là. Elle vient la filtrer, elle vient réguler cette eau-là. Elle diminue les risques d'inondation, elle régule la sécheresse aussi à ses alentours. En plus d'être la plus grande réserve d'oxygène de la planète, un tiers des forêts, comme on le disait tout à l'heure. C'est aussi la maison de près de 85 espèces de mammifères, de l'élan d'Amérique au castor, en passant par le caribou, les ours, les lynx. Plus de 300 espèces d'oiseaux y passent, dont à peu près la moitié y vivent en permanence, avec des mésanges, le pic, le corbeau. Et ça aussi un rôle très, très important pour les communautés autochtones, puisque une grande majorité des populations autochtones vivent par et grâce à la forêt au Canada.
Oui.
En fait, j'avais vraiment sous-estimé.
Oui, vraiment, c'est impressionnant, en fait, de grosseur et de d'importance au sein de notre écosystème. Mm-hmm. Mais dans tout ça, me direz-vous, Juanito, où as-tu mis l'aspect historique?
Mais oui, où as-tu mis l'aspect historique,
Juanito? Bon, bien voilà, j'y viens. En fait, c'est qu'elle semble qu'elle soit modelée depuis 10 000 ans. Mais selon les scientifiques, c'est une forêt qui est jeune. Et elle est jeune parce qu'elle a un fonctionnement bien, bien particulier. C'est une forêt qui est constamment renouvelée. d'où son jeune âge et sa peau sans rides. Et il y a trois facteurs qui rentrent en ligne de compte pour ce renouvellement. Donc, en fait, elle est un peu comme un vampire, elle vieillit pas. Elle vieillit pas, cette forêt-là.
Et comme moi, en fait.
Exactement. C'est ce que je voulais dire. C'est qu'elle est exactement comme toi, Christine. Les trois facteurs qui rentrent en ligne de compte dans son renouvellement, bah, tout d'abord, il y a les feux naturels. Donc, vous avez un éclair qui tombe sur un arbre, c'est un petit peu sec, puis ça déclenche un feu de forêt naturel. Ça brûle tout sur son passage. Eh bien, la forêt, en fait, elle a des arbres qui vont être résistants au feu. Résistants dans le sens que, si je vous prends par exemple l'exemple de l'épinette noire et du pin gris, donc on parle d'arbres qui ont plus que 50 ans. Il faut que les arbres aient plus de 50 ans. Donc il y a quand même une vigie au niveau de.
Mais l'arbre va brûler là, quand tu dis.
Oui oui, l'arbre brûle, mais les cocottes qui sont tombées précédemment de ces pins et de ces épinettes qui sont au sol, avec la chaleur, elles éclatent et elles disséminent en fait les graines dans le sol, qui finalement, lui, va aussi être enrichi par les cendres des arbres qui vont avoir brûlé.
C'est un popcorn de cocotte, finalement.
Exact. Un popcorn de cocotte pour amener ça à la bouffe, ma petite Jen. Et en fait, ce popcorn de cocotte-là vient pousser des nouveaux arbres, puisqu'en fait, les cendres font de la terre une très, très bonne nutrition pour que les graines poussent et fassent et renouvellent la forêt. Ça, c'était le premier des trois facteurs. Le deuxième des trois facteurs, c'est les insectes. Alors, les insectes sont un facteur important du cycle vital des forêts boréales. En fait, les grandes infestations qui surviennent vraiment régulièrement, donc c'est vraiment un cycle constant, okay. Elles aident à renouveler les forêts. Donc, quand les feux ne sont pas suffisants, bah, finalement, ça vient libérer les éléments nutritifs qui sont stockés dans les arbres. Et ça élimine également les arbres qui sont morts et trop âgés. Donc, c'est vraiment la survie du plus fort, là. Ça réduit donc la compétition entre les arbres et ça rend l'écosystème beaucoup plus productif.
Fait que les insectes font le ménage.
Exact.
Des vieux arbres.
Les insectes font le ménage. Mmh. Et l'autre portion qui fait le ménage dans les vieux arbres, c'est notre troisième facteur qui sont en fait les maladies. Les maladies des arbres. Elles contribuent en fait à l'écosystème forestier en accélérant la mortalité des arbres qui sont plus faibles ou trop vieux. Et puis, ça libère également le renouvellement de la forêt pour accroître la biodiversité. Donc, finalement, là encore, c'est vraiment la loi du plus fort. T'es malade, tu meurs, mais tu permets aux autres de vivre plus longtemps. Mm-hmm. En conclusion, c'est une forêt qui est constamment renouvelée, qui a donc trouvé la recette de la jeunesse éternelle. Et c'est grâce à son renouvellement qu'elle peut être aussi présente pour la vie sur Terre. Elle est donc le meilleur ami de l'homme, en quelque sorte. Et je vous encourage à aller découvrir davantage sur ce sujet qui est passionnant et qu'on passe, on passe vraiment d'une anecdote incroyable à l'autre quand on commence à lire sur la forêt boréale. Je vous y encourage.
Merci beaucoup, Juan. Merci de nous avoir instruits.
Bienvenue.
Voilà que je me sorte de là, j'ai appelé la CEPAC. J'avais du temps devant moi, c'est pas que j'ai vidé un lac. Qui c'est que je vois l'Indien, pas de bonne humeur, pas tout, avec les oreilles dans le grain, il me dit tu détruis tout. Quand même que ça sera de ma faute, que c'est que tu veux que ça me fasse, si c'est pas moi, c'est un autre qui va le faire à ma place. Oui, tout, je n'ai des enfants.
Comment ne pas parler de la forêt sans parler de Richard Desjardins, hein, Christine?
Non, effectivement, et quand on parle de nos forêts québécoises, c'est aussi important de parler de la déforestation. Et j'ai eu la chance de me replonger dans tout l'univers musical de Richard Desjardins. Mais Jean-François, tu vas nous en parler plus tard, là, ouais. Particulièrement peut-être du documentaire québécois « L'erreur boréale ». Il y a plusieurs artistes qui soutiennent cette cause, en fait, là, donc les Cowboys Fringants, entre autres, c'est un groupe musical, vous les connaissez, j'ai déjà fait jouer quelques chansons à cette émission. En fait, eux, ils ont un projet, ils ont une cause en fait qui véhicule les valeurs environnementales qui sont chères aux musiciens. D'ailleurs, je vais vous en reparler un peu plus tard parce que je veux faire le lien aussi avec, vous vous souvenez, l'album, je vais vous le redire tout à l'heure aussi, l'album
« Les forêts chantées ».«
Nos forêts chantées », exactement. Voilà, donc on écoute les Cowboys Fringants avec la chanson 8 secondes.
Toutes les 8 secondes, je ressens un peu plus de honte. Face à cette surexploitation et à cette triste destruction de la nature pour la consommation, on vont nous mettre en les faits accomplis. Ils jouent la terre au Monopoly. Quand ils se sont appropriés les nuages, les oiseaux, les glaciers, peut-être qu'ils en auront assez. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème.
Wow, merci beaucoup Christine. Alors on poursuit ce cabaret des acolytes et je me tourne cette fois-ci vers Janelle et le thème est la forêt pour ceux qui viennent se joindre à nous. Alors avec leur pénombre et leur bruit d'animaux difficiles à identifier, les forêts hantées peuvent être les endroits les plus effrayants du monde. Janelle, parle-nous de ce que tu as découvert cette semaine.
Oui, je vais vous faire un petit tour d'horizon des forêts les plus effrayantes et légendaires du monde. Donc, la plus populaire est la forêt de Oia-Basiu, située au nord-ouest de la Roumanie, en Transylvanie. Donc, cette forêt connue sous le nom du triangle des Bermudes de la Roumanie parce que d'étranges disparitions auraient eu lieu. On dit notamment qu'un berger aurait disparu avec un troupeau de 200 moutons, quand même pas négligeable.
C'est pas là qu'il y a le conte Dracula?
Pardon?
C'est pas là qu'il y a le conte Dracula?
Oui, exactement. On dit que le comte Dracula a vécu là, exactement. On dit aussi qu'une fillette de 5 ans qui s'y était enfoncée aurait réapparu 5 ans plus tard et elle sans avoir vieilli. Donc, les visiteurs...
Avec 200 moutons.
Comment?
Avec 200 moutons.
La famille.
Janelle, tu me donnes l'adresse après l'émission?
Oui. Les visiteurs en ressortent souvent avec une profonde angoisse et un sentiment d'avoir été constamment observé. Ça prévient du site web de la forêt. Puis on lui a dit même que certains parlent d'avoir eu des maux de cœur, des brûlures, même des graphings après avoir visité cette forêt. Donc, les habitants du coin ont tendance à ne pas s'y aventurer par peur de jamais pouvoir retrouver le moyen de s'en sortir.
Ça, c'était en Transylvanie.
En Transylvanie, exactement. Donc, la deuxième destination, je fais un petit crochet vers le sujet de Geneviève, la forêt noire, ainsi nommée pour sa pénombre, comme on l'a mentionné, là, presque impénétrable. Donc, c'est le site de certains contes de fées les plus effrayants du frère Grimm. Tantôt, on parlait de légendes Disney. Donc, les frères Grimm, ça provient beaucoup d'histoires, viennent de là. Donc, la légende veut que la forêt soit hantée par les loups-garous, les sorcières, le diable lui-même. Selon Trip Savvy, la légende du Gross Man raconte l'histoire d'un homme grand horriblement défiguré, les yeux globuleux avec plusieurs bras, aurait forcé des enfants à entrer dans la forêt à confesser leurs péchés avant de les condamner à ne plus jamais en ressortir.
C'est
donc
frayant,
ça, c'est la légende de la forêt noire.
C'est pire que le bonhomme 7 heures.
Ouais, c'est comme, on l'imagine pas très beau. Hein?
De notre côté de l'océan.
Oui, c'est ça. De notre côté de l'océan, on s'en va vers le Mexique, donc l'île des poupées. Donc là, Juan, si jamais tu peux me reprendre si je me dis pas correctement, la Isla de las Muñecas, ça se peut-tu?
Très, très bien.
Ouais, OK, cool.
Ah, bravo, Chanel.
Une petite île située dans un parc au sud de Mexico. Hey, là, si vous avez une photo à aller voir, c'est celle-là. Là. L'île doit son nom à une collection de poupées entières ou démembrées accrochées aux arbres. Donc, ça, c'est...
Wow!
C'est...
Ah, ouais.
Mon Dieu!
Vraiment pas chic, là. C'est vraiment épeurant quand je regardais les photos de tout ça. Ça, dans le fond, il y a plus de 50 ans, là, le corps d'une jeune fille noyée a été retrouvé dans dans le canal. Le seul habitant de l'île des poupées, Julian Santana Barrera, a découvert le corps et a ressenti la présence de son esprit, de la jeune fille. Donc, pour lui rendre hommage, il a accroché des poupées sur les arbres et ces poupées sont possédées par la jeune fille. Donc, parfois, les poupées bougent. Les plus courageux peuvent visiter cette forêt là, depuis les années 2000. C'est ouvert aux touristes.
Christine, tes enfants écoutent notre podcast, hein?
Mais on est loin de la forêt des toutous, c'est une piste au Mont-Valais bleu, hein?
Ouais. Non, on est loin de là. On est loin de là.
On est loin d'une Janelle qui a peur des films de peur. Hein?
Ouais. Non, c'est ça. Puis je vais. Ben, dans le fond, là, j'ai. petite, peut-être moins épeurant celle-ci en Écosse. Donc, dans la forêt Doon Hill, c'est dans le fond dans le bois de Loch Lomond, un parc national en Écosse. On y retrouve le célèbre Fairy Tree. Donc, c'est un pin sylvestre perdu à travers une mer de chênes. On pense que cet arbre est marqué dans le fond par l'entrée d'un palais souterrain de la Reine des Fées, selon le Scotsman.com. Oui, en fait, un secret que personne n'était censé dévoiler, mais en 1691, un révérend du coin a révélé dans son livre The Secret Commonwealth of Elves, Fauns and Fairies, ont provoqué la colère des habitants enchantés de cette forêt. Donc,
Et là, il y a un seul pin dans tout cet univers de chênes, c'est ça?
Exact, et c'est la porte d'entrée d'un monde de fées. Je termine avec la forêt de Brocéliande en France. On dit que cette forêt bretonne de Brocéliande aurait été le théâtre de la légende du roi d'Arthur. Peut-être que vous avez entendu parler de cette forêt enchantée.
Elle aurait habité
le fameux Majesté Merlin. Elle n'est pas effrayante a priori, sauf peut-être Val sans retour ou la légende de la sorcière Morgan le Fay, donc la demi-sœur du roi Arthur, qui retenait les hommes prisonniers infidèles. Donc, cette forêt a été ravagée par un terrible incendie dans les années 90. Un arbre doré a été planté à l'entrée de la vallée. Puis cette forêt aujourd'hui est un lieu historique où on peut dormir et profiter d'activités plein air sous le thème des légendes arthuriennes. On peut y croiser des créatures imaginaires et des personnages de la légende. Donc, pour les amateurs du GN, du jeu Grandeur Nature, là, c'est un vrai paradis sur Terre, cette forêt.
Hey, ça wow. doit, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Janel. Ah, c'est bon, Christelle.
C'est bon, hein? On était Nouchimik du groupe Locolocas. Donc, Nouchimik qui signifie à l'intérieur des terres. Donc, on peut penser que c'est dans la forêt. Quand on parle de forêt au Québec, il faut surtout pas oublier les peuples autochtones. Et tout à l'heure, je vous parlais de l'album Nos forêts chantées. C'est un projet que le bassiste du groupe Cowboys Fringants, Jérôme Duprat, il a dirigé afin de permettre aux jeunes des Premières Nations de créer un album, de créer des chansons. Donc, les jeunes étaient invités à écrire et à composer des chansons. Et ce sont des chanteurs connus qui allaient exposer ces chansons-là. Tout à l'heure, on a entendu la chanson de Tire le coyote. Et voici une deuxième des chansons de l'album, Nouchimit. La chanson, dans un premier temps, était présentée à Samiane, qui a refusé de chanter cette chanson. Deuxième fois à Corias, qui a refusé aussi de chanter. La troisième fois, Locolocas. Locolocas aussi ont refusé de chanter cette chanson-là parce qu'ils sont dit... Oui, tout à fait. Ils se sont dit, c'est pas à nous à chanter ça. Les voix doivent provenir des jeunes eux-mêmes. Donc, dans cette chanson, chaque phrase est chantée par un des élèves qui a composé cette chanson-là.
Ah,
alors, je vous invite
cool.
à aller le regarder pour ça. Voilà.
Ah bien, merci beaucoup Christine. Moi, cette semaine, je parle aussi de la forêt boréale, mais sous un autre angle, sous l'angle du garde-manger boréal, parce que j'ai lu le livre « Le garde-manger boréal » de Jean-Luc Boulet et d'Arnaud Marchand. Arnaud Marchand, vous l'avez déjà vu au chef. Est-ce qu'il a gagné un des chefs? Je pense qu'il a gagné un des chefs.
Il me semble que oui.
Oui, il a participé. Il me semble qu'il a gagné.
Alors, dans les premiers, là.
Oui, et c'est aux éditions de l'Homme. Alors, une cuisine composée d'ingrédients sauvages issus du terroir nordique d'ici, c'est ce que nous proposent les deux chefs. 80 recettes à saveur boréale. Mais au-delà des recettes, ce que j'ai grandement apprécié de ce livre, c'est l'inspiration. Ce livre, c'est l'élan qu'il nous faut pour s'intéresser davantage aux saveurs oubliées, aux saveurs d'ici. Celles auxquelles peut-être nos ancêtres européens ont rapidement tourné le dos, parce qu'au travers des années, on a perdu beaucoup du savoir-faire des peuples autochtones, et dont les aliments de notre forêt, donc travailler les aliments de notre forêt. Écoutez, ça m'a tellement inspiré que cette semaine, j'ai fait pas mal de raquettes en forêt dans les Laurentides. Et je me suis mis davantage à explorer ce que je pouvais récolter en forêt, parce que même l'hiver, on peut récolter certains aliments, certains, il y en a quelques-uns. J'ai fait la découverte du poivre des dunes. C'est le fruit du aulne crispé. Il y en a beaucoup dans nos forêts. Les peuples algonquiens utilisaient abondamment ce fruit pour parfumer leur tisane. Mais avouez que lorsqu'on parle de cuisine boréale, on pense un peu à tisane, hein? Du pain.
Des infusions, oui. C'est vrai. Oui.
Avec du sapin, effectivement.
Mais j'ai Dany Vervaine en tête, là.
On salue de... Oui. Alors, Jean-Luc Boulay et Arnaud Marchand nous amènent complètement ailleurs. Là, on ne parle pas de tisane dans son livre, on parle davantage d'une réelle invitation à travailler notre propre cuisine avec les aliments d'ici. Alors, pas de tisane. Par exemple, ce fameux poivre des dunes dont j'ai été à la recherche cette semaine, on peut le retrouver facilement en épicerie fine, mais si vous ne le trouvez pas dans vos promenades dans les bois... Et ce poivre, on peut le remplacer par du poivre, premièrement, hein, parce que le poivre commun représente aujourd'hui 1/5 du commerce mondial des épices. Et notre poivre qu'on achète, le poivre qu'on achète à l'épicerie, le poivre commun, là, vient souvent du Vietnam, mais il peut venir de la Chine, du Sri Lanka, du Brésil ou de l'Indonésie. Alors pensez-y, là, des fois on achète du poivre qui vient de 15 000 km plus loin. Quand on peut prendre nos deux raquettes et aller en chercher dans la forêt. Vous pouvez googler à la maison un poivre des dunes, c'est assez facile à trouver, c'est assez facile à identifier en forêt. Ça ressemble aux fruits, aux chatons tombants des bouleaux, sauf que c'est pas tombant, c'est érigeant et érigé. Hein?
Et tu en as trouvé facilement, Jean-François?
Je n'en ai pas trouvé. Mais il fallait pas le dire. Mais j'ai été à la recherche, j'ai été honnête. Alors,
l'important, c'est l'effort.
Ben oui, voilà. Alors, j'ai trouvé ça, par exemple. Un autre exemple d'inspiration, c'est les jeunes pousses de sapin baumier. J'en ai trouvé du sapin baumier. Alors, on peut remplacer ça par du romarin et de la marjolaine, et ça se trouve très, très facilement. Tartine de crevettes nordiques au cœur de quenouille, coulis de pissenlit et mayonnaise au sapin baumier. Alors, c'est un exemple de recette qu'il nous propose. Il nous propose aussi, et j'ai pensé à notre épisode sur cet automne sur le gin québécois, il nous propose un saumon rôti carpaccio de courge musquée, épinard, beurre blanc au gin Angava et baie de Genièvre.
Oh, c'est sûr que c'était grand, oui. Ça doit être excellent.
Pas oui. Pire, hein? Mm. Et oui. On parle de Genièvre. Et alors, je me suis penché sur des idées, Genièvre, pour inspirer ta cuisine et toi et le chum aussi de Janelle, qui vont faire bientôt un combat d'Osobuco.
On
l'a entendu dans quel c'était dans le chalet. Alors, le combat d'Osobuco, que diriez-vous de remplacer quelques aliments de votre Osobuco par du myrick baumier qui remplace le laurier ou par de l'argousier qui remplace des agrumes? Alors, ce serait peut-être à essayer dans vos recettes.
Intéressant.
Mais oui, pas pendant le concours, là. Il faut l'essayer avant, puis après ça, voir si ça fait ou pas, là.
Ben, ça peut être ce qui va faire qu'ils vont gagner le concours. Tu comprends?
Peut-être.
Alors, c'est 80 recettes inspirantes et c'est au-delà des recettes, c'est réellement inspirant comme livre. Le garde-manger boréal de Jean-Luc Boulay et de Arnaud Marchand aux éditions de l'Homme. Vous pouvez retrouver ces chefs dans ce livre, mais également à leur restaurant de Québec en temps normal chez Boulay, le bistrot boréal. Geneviève est crampée.
c'est toujours bon, hein, ça?
Merci, Christine.
C'est tiré des fables de la forêt verte, un dessin animé des années 80. Tant apprécié chez moi, je la connais par cœur.
Alors, comme le disait Christine plus tôt, j'ai réécouté cette semaine L'Erreur boréale, ce film marquant où Richard Desjardins dénonce les effets dévastateurs des coupes à blanc et de la déforestation. L'avez-vous déjà écouté ce film-là, les acolytes? Non, malheureusement.
Bon. Pas encore, non.
C'est un must.
Ben, c'est un must. Hein? 20 ans plus tard, je pense que ce film-là est toujours d'actualité. Oui. Même si on semble avoir fait du progrès là, sur les aires protégées au Québec, il semble que l'industrie forestière récolte encore plus de bois que la capacité de régénérescence de la forêt. Alors cet automne, même Richard Desjardins dénonçait le fait qu'encore aujourd'hui, ce sont, écoutez bien ça, 750 abatteuses qui continuent de ravager notre forêt jour et nuit, rasant chaque année une superficie équivalente à 6 fois l'île de Montréal.
Oh my God!
Mon Dieu!
Ouais.
Et dans le film L'Erreur boréale, Juan, Richard Desjardins dit en introduction que la forêt vient du mot latin forestare, qui veut dire s'en aller ailleurs. Et les Espagnols ont conservé ce sens dans une expression afuera. Est-ce que je le dis bien? Et qu'est-ce que ça veut dire afuera?
Ça veut dire dehors.
Et quand on le dit d'une manière afuera, est-ce que ça peut. Et ben lui, il dit que ça veut dire décris.
Ben oui, dehors. Dehors, dehors, Jean-François. Pas mal ça.
Bon, ben voilà, j'espère qu'on vous aura fait voyager sous le thème de la forêt. C'est déjà la fin de ce cabaret. Si vous voulez écouter les autres épisodes du cabaret, ben allez sur notre page Facebook, ils sont tous présents. Vous pouvez également vous abonner via Apple, Spotify, Google ou toutes les autres plateformes de podcast, on est présent. L'adresse de notre Facebook, facebook.com/lecabaretdesacolytes. Alors, un petit mot de la fin, Juanito?
Oui, alors moi, j'ai lu qu'il y avait des études qui disaient qu'avec des randonnées en forêt et de la pleine conscience, on pouvait réduire son stress, sa pression sanguine, augmenter la concentration, tout en renforçant son système immunitaire. Alors, rendez-vous là-bas.
Ah oui, la forêt, c'est fort, hein? Mm-hmm. Geneviève, un petit mot de la fin?
Ben, j'en ai moins parlé, mais n'oublions pas la faune aussi dans la forêt. Comme tu l'as mentionné, Jean-François, c'est tellement magnifique des fois d'observer, par exemple, des oiseaux de proie et tout ça. Donc, rappelons-nous de ça et profitons-en.
Et si on veut revoir la faune, allons voir ce dessin animé. Une forêt... c'est quoi, Christine?
La forêt verte.
La forêt verte, ben oui. Christine, un mot de fin.
Oh, que du plaisir dans cette émission. Puis vivement qu'on reprenne les grands feux de camp ensemble à chanter.
Ah oui, en plein cœur de la forêt, un beau feu de camp, bien contrôlé, hein, pour pas faire...
Bien contrôlé, ben oui. Oui, respectueux de la nature, oui.
Janelle.
Ah, j'ai tellement hâte de retourner, moi aussi, faire une marche en forêt, là... Pas qu'on peut pas l'en faire l'hiver, mais j'aime particulièrement aller marcher en forêt l'été. Ouais.
Mm-hmm. Ben, je vous remercie. Ce balado est une production Fort Talent. Ont participé à cet épisode Janelle Touchette, Christine Gélina, Geneviève Proulx, Juan Blasco. Mon nom est Jean-François Gélina et on se laisse la gang sur cette réflexion de Jenny Weber, une environnementaliste américaine. On connaît tous la réflexion populaire et philosophique « L'arbre qui tombe dans la forêt, fait-il réellement du bruit si personne n'est là pour l'entendre? » Hein, vous avez tous entendu ça. Elle revisite cette expression en disant plutôt « Si un homme parle dans la forêt et qu'il n'y a pas de femme pour l'entendre, a-t-il encore tort? » Alors, bonne semaine tout le monde!
Bonne semaine!
Bonne semaine.